Frères et sœurs, les amis, nous voilà déjà arrivés à la seconde étape de notre marche vers la fête de Pâques. J'aime beaucoup cette station, si je puis m'exprimer ainsi, de l'évangile d'aujourd'hui qui nous propose la transfiguration. Alors bien sûr, nous connaissons parfaitement cet épisode, mais je ne vais faire que proposer quelques points de méditation pour notre semaine, seconde semaine de carême qui commence avec ce dimanche. Personnellement, j'aime beaucoup la montagne et je pense que tous les amoureux de la montagne vont parfaitement saisir et comprendre au travers des mots et des lignes ce que nous allons dire dans cette rapide méditation. Alors j'aime beaucoup la montagne parce que d'abord elle demande un effort, mais avant l'effort il faut s'y préparer. Il faut se préparer aussi avec son sac à dos pour ne rien oublier, mais il faut se préparer aussi physiquement. Est-ce que ce n'est pas l'image même du carême qui nous prépare spirituellement avec les efforts aussi que nous pouvons procurer à notre corps par le jeûne et l'abstinence de nous préparer à la fête de Pâques? Alors dans l'écriture, que ce soit Moria, le Sinaï, Nebo, le mont Carmel, l'Horeb, Gilboa, Garizim, le mont des Béatitudes, le Tabor, le mont Hermon, Sion, le mont des Oliviers, le Golgotha. Même si nous n'avons pas visité la Terre Sainte, je pense que ces mots, ces termes qui sont ceux de chacune de ces montagnes de la Terre biblique, ces mots nous sont familiers. Ces montagnes bibliques où se sont passées à chaque fois au sommet de grands événements de l'histoire du salut qui ont eu lieu ici-bas, sur notre terre. Et la montagne, nous le savons, c'est un des rendez-vous privilégiés avec Dieu et elles sont souvent utilisées dans la Bible pour mettre en scène des rencontres importantes entre Dieu et son peuple. Ça, nous le savons très bien. Alors j'allais dire, après l'effort de la montée, de la montagne, c'est le réconfort du panorama qui va se dérouler sous nos yeux. Mais là, en fait, de panorama, c'est toujours, une fois qu'on a gravi la montagne, une découverte et une surprise. Que ce soit les lectures de l'Ancien Testament et de l'Évangile d'aujourd'hui, le sacrifice d'Isaac, ainsi que la transfiguration, ont lieu sur deux montagnes importantes, le mont Tabor, Moria, pour le sacrifice d'Isaac, et le mont Tabor. Et les deux lectures nous laissent entrevoir Dieu et son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors rapidement, considérons l'histoire du sacrifice d'Isaac, par ailleurs nous connaissons très bien, par son père Abraham, tel que raconté dans la Genèse au chapitre 22. Cette lecture provoque un scandale. Moi, elle me scandalise. Elle scandalise peut-être encore plus les esprits modernes. Quelle sorte de Dieu peut demander à son père de tuer son propre fils? Non seulement on dirait que Dieu est fou et que tout ça est complètement fou. Combien de voix, V-O-X, ont dû troubler le cœur d'Abraham à ce moment? Que ferait un père de notre époque s'il était appelé à sacrifier son fils au Seigneur? On passerait pour des fous, complètement fous. Donc, ce récit poignant, et je cite, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en sacrifice. » Alors Abraham se leva de bon matin. Fin de citation. Alors il y a d'abord l'écoute d'Abraham, ça que j'aime beaucoup. Abraham a écouté le messager du Seigneur. Et c'est justement parce qu'il l'a écouté que son fils unique fut épargné. Et c'est pour ça que le sacrifice d'Isaac, entre guillemets, n'est pas un symbole de mort, mais un symbole de vie, puisqu'on interdit à Abraham de sacrifier son fils. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'on a gravi la montagne, ce qui va nous être révélé ne sera jamais un message de mort ou un message mortifère, mais un message de vie. Ce qui s'est passé sur le mont Moria trouve un écho au mont Tabor dans l'évangile d'aujourd'hui et dans ce qui s'y est produit à son sommet, ainsi que au sommet du mont Golgotha, le calvaire dans le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il serait très intéressant de faire un travail en mettant en parallèle, en synoptique, les trois montagnes en question, Moria, le Tabor et le Golgotha. En haut du mont Moria, parole de vie, puisque le fils d'Abraham, Isaac, n'est pas tué, parole de vie, et presque de vie éternelle, révélée au mont Tabor, puisque le Christ va se révéler comme étant le Messie, le Fils de Dieu, où tous les protagonistes qui sont là autour de cette transfiguration vont découvrir le vrai visage du Christ. Donc, quelle joie au sommet du mont Tabor et au sommet du Golgotha. Quel drame, quelle atrocité, mais quelle joie aussi de l'attente de la résurrection. Alors, à chacun des sommets, nous pouvons dire, dans une première conclusion, que Dieu ne nous abandonne jamais dans notre désespoir et notre terreur au plus profond de chacun de nos cœurs. Et chacune de ces montagnes nous enseigne que c'est uniquement lorsque nous sommes prêts, en fait, à lâcher prise. Alors, en fait, on lâche prise d'une certaine manière. On prend tout ce qu'il faut pour gravir en sécurité la montagne. Mais on sait très bien que plus la montagne sera difficile, plus il faudra se délester, lâcher un certain nombre de choses, ou tout au moins les partager. Voilà pourquoi, lorsqu'on gravit des montagnes très hautes, on prend des accompagnateurs pour répartir le poids de ce que nous portons. Voilà, mais j'allais dire que c'est seulement au moment où nous lâchons prise, à cet instant, que nous allons véritablement faire l'expérience de la guérison, de la résurrection et, en définitive, de la vie nouvelle. Eh bien, on pourrait dire, en conclusion, pour ne pas faire trop long, que Jésus a peut-être eu besoin de la lumière de l'expérience du sommet de la montagne dans sa propre vie. Il annonçait sa passion à venir. Voilà, j'allais dire, son sac à dos. Mais il a eu comme besoin de monter au Tabor pour qu'il puisse trouver la force nécessaire ensuite de redescendre dans la vallée du Jourdain et monter à Jérusalem. Vous savez, sous ces évangiles qui commencent par « Le Christ monte à Jérusalem », il a fallu qu'il trouve la force. Cette force, elle vient du mont Tabor. Et donc ceux qui suivent Jésus doivent gravir la montagne pour entrevoir le mystère de la présence de Dieu dans le monde et dans nos vies. Le récit de cette transfiguration nous rappelle qu'il ne suffit pas de contempler le mystère. Les disciples sont sommés d'écouter le Christ, le bien-aimé, cette voix qui s'est fait entendre en haut du mont Tabor. Celui-ci, mon fils bien-aimé, le bien-aimé de Dieu. Et ensuite, nous avons à retourner, j'allais dire, dans notre vallée de larmes, à la routine de chacune de nos vies. Alors, frères et sœurs, tant de voix aujourd'hui agressent nos oreilles, nous bombardent. Et ainsi, nous avons des difficultés à écouter vraiment la voix de Dieu. Alors, prenons peut-être la résolution en cette seconde semaine du carême, d'écouter mieux, pas forcément plus, mais d'écouter mieux le Christ et de contempler dans sa gloire lorsque nous aurons à gravir la propre montagne de chacune de nos vies. Amen.